du soutien à l'emploi. Nos programmes gratuits permettent aux personnes touchées par la perte de vision de vivre la vie qu'elles ont choisie. Visitez inca.ca ou appelez-nous au 1-800-465-4622.
Sur une distance de 20 verres, la Coupe Vanier au bout du pied.
C'est le balle frappée solidement par White du côté gauche. Ouais. Circuit! Les Capitales qui reprennent les devants.
Pour ton sport local, écoute Cheese 94.3.
Savoir ce qui se passe chez toi, c'est le fun. Mais t'as fait le tour pas mal vite. Puis t'es peut-être curieux de savoir ce qui se passe ailleurs aussi.
Chez le voisin, c'est ton émission d'actualité internationale où on te garde les moments forts et inusités de la semaine qui se sont passés partout autour du globe. Animé par deux globe-trotteurs de salons attachants, on te promet de te faire voyager sans trop te ruiner.
Chez le voisin, c'est les mardis de 13h à 14h sur Cheers 94.3.
Hey, what's up tout le monde, c'est Young G. Je voulais vous inviter à écouter Les Architectes du son, émission 100% rap. C'est du lundi au vendredi dès 17h30 sur les ondes de Cheers 94.3 FM. Personnellement, je serai là tous les vendredis avec vous pour faire découvrir des gros sons. Donc, manquez pas ça, Les Architectes du son.
Vendredi 28 mai 2021, ici Alex Bergeron et bienvenue au deuxième service du Réchaud. Bon vendredi sur les ondes de Chiz 94.3 à Québec et de CFAC 88.3 à Sherbrooke pour cette émission de ce vendredi sur vos radios universitaires préférées. On a parlé longuement la semaine dernière, peut-être un peu trop longtemps, mais en tout cas, on a parlé la semaine dernière. L'appel d'offres sur l'étude d'impact environnemental a été officiellement lancé ce matin pour la réalisation d'une étude sur l'environnement qui débutera à l'automne pour le projet du tunnel entre Québec et Lévis. L'étude se penchera aussi bien sur les répercussions temporaires liées à la construction, ainsi que sur l'incidence permanente du tunnel Québec-Lévis. La liste des impacts étudiés comprend notamment le climat sonore, la qualité de l'air, les émissions de gaz à effet de serre, la faune, les milieux humides et hydriques, ainsi que les territoires agricoles. Donc, en espérant que les experts consultés seront aussi d'avis que ça n'a pas de bon sens, on l'aura vu avec à peu près tous les partis, ben en fait non, tous les partis y sont opposés. À part peut-être les gens économiques, les gens qui gèrent l'argent, eux trouvent que c'est une bonne idée. Mais les environnementalistes trouvent que c'est pas bon. Le reste de la population trouve que c'est pas bon, règle générale. Et c'est à se demander si un projet avec autant d'argent impliqué devrait quasiment pas, on devrait pas passer au vote. Il me semble que je rajouterais, t'sais, c'est sûr que c'est pas notre genre habituellement, mais comme aux États-Unis, quand ils vont voter pour le président, ils ont des feuilles de 8,5-14, des deux côtés, trois pages, et ils votent pour des projets de loi de est-ce qu'on décriminalise les drogues, est-ce qu'on autorise le port d'armes, est-ce qu'on dit ils ont des questions référendaires à chaque élection. Ça, j'en profiterai pour demander « Donnez-vous le pouvoir à Québec de dépenser 10 milliards de dollars dans une cochonnerie de 8,4 kilomètres? » Ça serait intéressant. On n'est pas obligé de faire que des questions de « Voulez-vous vous séparer ou non? » On peut faire des questions sur « Acceptez-vous de dépenser pour 8,4 milliards... pour 10 milliards pour l'instant, pour 8,4 kilomètres de chemin? » pour sauver 15 minutes de route et que 90% de la population du Québec ne passera jamais dans ce tunnel-là de sa vie. Si t'as pas à faire aller de Lévis à Limoilou, tu le prendras pas, ce tunnel-là. Fait que, tu sais, me semble, pour dépenser autant d'argent quand Les écoles sont de plus en plus en ruine. Quand les infirmières, les médecins sont à bout, veulent s'en aller, s'en vont, parce que les salaires ne suivent pas les heures incalculables qu'ils font, parce qu'on n'est pas capable de trouver des employés pour les CHSLD, parce qu'on a des problèmes. En fait, les écoles tombent en ruine, mais les professeurs sont pas mieux payés que ça. Quand il y a tellement d'autres problèmes, mais que, oh, soudainement, on a réussi à trouver 10 milliards pour un tunnel, quand même que ça fait de la job, toutes les autres jobs ne vont pas bien en ce moment. Surtout les jobs de la sphère publique. Ça, c'est définitif que ceux-là ne vont pas bien. Mais on a quand même été capable de trouver autant d'argent pour un tunnel inutile. Malheureusement. Pour rester dans cette sphère politique, puisque la semaine dernière, on a, oui, trouvé des sondages qui sont évidemment toujours favorables à François Legault. 80% d'appui pour François Legault comparativement à tous ses autres homologues de la province qui sont sous la barre du 50% et dans le cas même de Jason Kenney, sous la barre du 30% de satisfaction. Faut rendre quand même au fait que le Québec déconfine aujourd'hui même. Il n'y a plus de couvre-feu à soir. Les gens qui disaient à la blague hier sur les réseaux sociaux, ça veut-tu dire que à 23h59, c'est illégal, mais à minuit 1, je suis légal? Non, le couvre-feu se terminait ce matin à 5h du matin. Donc, on avait prévu le coup de rajouter la nuit avec la journée de la veille. Donc, officiellement, le couvre-feu n'est plus en vigueur depuis 5h ce matin. Donc, si vous vous preniez sans raison valable entre minuit et 5 heures ce matin, vous étiez possible d'obtenir un ticket si vous faisiez pogner. Donc, n'allez pas croire ces petites blagues loufoques sur les réseaux sociaux. Et bon, niveau sondage, comme je le disais, les premiers ministres, ça va mal partout, sauf François Legault, mais parce qu'on déconfine, parce que finalement, on réussit tranquillement à voir la lumière au bout du tunnel du côté québécois. N'en déplaise à tous les complotistes qui se revendiquent étant les gagnants là-dedans, ils n'ont rien fait pour. C'est vraiment François Legault, depuis le début, qui décide, comme il l'a dit si bien. Ça fait en sorte que des intentions de sondage sont également apparues du côté libéral. Donc si, du côté libéral, du côté fédéral, beau lapsus, puisque si au provincial, au Québec, François Legault gagne avec ses pires résultats et avec ses meilleurs résultats une majorité, du côté fédéral, Justin se rapproche tranquillement, pas vite, de la majorité. Puisque si des élections avaient eu lieu il y a en début de semaine, 23 mai, donc si des élections avaient eu lieu en début de semaine, le score moyen que Justin aurait pu faire à ces élections-là, c'est 167 députés. Et il en faut 170 au fédéral pour être majoritaire. Donc, à 3 sièges, il frôle la majorité. Évidemment, c'est très serré avec le Parti conservateur, parce qu'on arrive à un plus ou moins 38, plus ou moins 30 dans leurs cas respectifs, libéral, plus ou moins 38. On monte de 38, c'est quand même bon. C'est quand même bon pour l'équipe de Justin. Donc, 167 pour le Parti libéral. Le Parti conservateur est descendu à 110. Le NPD est à 30 et le Bloc est à 26. Le Parti vert serait à 2. Ce qui est quand même pas rien. Donc, en fait, je dis ça, puis finalement, ça a baissé. 16 mai, Justin flirtait avec la majorité. 172, 174, 175. Ben, finalement, il avait sa majorité. Donc, il vient de retomber sous cette barre majoritaire. Quand on regarde les chiffres, finalement, et c'est le Parti conservateur qui remonte. Donc, tout le monde remonte. Le Parti libéral a redescendu un tout petit peu. Mais il reste quand même en situation minoritaire pour l'instant. Et évidemment, ce qui est toujours intéressant, c'est la perspective locale. Si des élections avaient eu lieu au Québec dans la dernière semaine, les intentions de vote restent stables. Parti libéral en premier, Bloc québécois en deuxième, Parti conservateur en troisième. C'est assez stable. 40 sièges libéral au Québec, 26 pour le Bloc, c'est toujours stable. Parti conservateur, seulement 10, peut-être 11. Et évidemment, ben, c'est toujours la grande débâcle pour le NPD, avec un seul banc, soit probablement Simon Boulris, Rosemont, petite Patrice Simon, Simon Boulris. Autre beau beau lapsus, Alexandre Boulris, qui est toujours le dernier survivant du NPD, mais c'est serré avec le Parti libéral. Donc, tout dépendamment du candidat qui se présentera contre Alexandre Boulris, il se pourrait qu'il perde le dernier siège, le dernier château fort du NPD au Québec. Encore une fois, si des élections avaient lieu prochainement. J'allais dire Trois-Rivières à la virée PPC, mais non, c'est un mélange de couleurs entre le bleu et le rouge qui fait que ça donne mauve, mais ça s'arrête là. Donc c'est un mauve trompeur dans cette cas-ci. C'est stable. Pour vrai, dans les dernières semaines. Donc, pour l'instant, le Québec n'aurait pas une si grande différence que ça sur les chiquiers. Donc, pour l'instant, on est assez similaire. Règle générale, si des élections, ça serait un copier-coller. Donc, la motion du Bloc québécois d'encourager les libéraux à ne pas déclencher des élections tant et aussi longtemps que le gros de la pandémie a toujours... toujours court, donc ça serait irresponsable de déclencher des élections en temps de pandémie. Évidemment, bon, la question, c'est quand est-ce qu'on décide que la pandémie est finie? Je dirais plus que la pandémie va être beaucoup moins pire lorsque tout le monde aura reçu son deuxième vaccin, ou du moins le plus clair aura reçu le deuxième vaccin. Et là, à ce moment-là, on pourrait peut-être regarder pour faire des élections. Mais pour l'instant, comme les municipales au Québec vont avoir lieu cet automne, est-ce qu'une élection fédérale pourrait avoir lieu en même temps? J'ose croire que non. Quoique ça s'est déjà vu à une semaine d'intervalle ou deux, il y avait deux élections qui suivaient. Je pense que c'était municipal fédéral, d'ailleurs. Mais va-t-on se risquer à réessayer la même chose? J'en doute un petit peu. Mais quand même, sait-on jamais à suivre dans ce cas-ci. Donc, pour l'instant, Justin Trudeau flirte avec la majorité. C'est pas gagné. Il en est proche, mais c'est pas gagné. Donc, il y a encore du travail à faire. Idéalement, il faut qu'il y en ait un de l'autre bord qui pogne une débarque. Déjà là, ça pourrait l'aider. C'est sûr que où il n'a pas sa majorité, c'est parce que le Bloc québécois est très fort au Québec. Parce que normalement, si c'était pas du Bloc, les gens voteraient libéral. Donc, à quel point ça va se jouer au Québec, justement, de donner une majorité ou non à Justin, c'est fort probable. Parce que, comme on le dit, le NPD a abandonné le Québec de toute façon. À preuve, Alexandre Boulris est maintenant en danger, lui aussi, de se faire rayer de la carte du Québec. Il n'y a pas d'autre endroit où le NPD peut rentrer un peu fort. Et de toute façon, Jagmeet parle de moins en moins au Québec lui-même. Fait que déjà là, il sait qu'il l'a perdu. Il va se concentrer sur l'Ontario et la Colombie-Britannique, où, règle générale, le NPD rentre un peu plus fort. Mais pour l'instant, les provinces de l'Ouest, c'est à oublier pour le NPD. Les Maritimes, règle générale, c'est libéral. Et Québec, ils ont perdu complètement au profit du retour du Bloc québécois. Donc, ça va mal pour le NPD, mais ça va relativement bien pour le Parti libéral. On s'arrête quelques instants, on s'en va entendre Chose sauvage avec l'or et l'argent. Qui auront les positions d'or et d'argent? C'est une bonne question pour les prochaines élections. Fédéral, peut-être d'ici la fin de l'année, si ça va bien avec la vaccination. Sinon, l'hiver prochain, printemps prochain, c'est imminent. Ça sera pas tout de suite, mais c'est imminent. Ça, c'est sûr et certain. Chose sauvage en musique sur les ondes de Chiz 94.3 et de CFAC 88.3. De retour au deuxième service. J'en ai parlé parce que c'était en nouvelle de dernière heure, la semaine dernière, où on apprenait que le producteur Luke Wiseman, ancien propriétaire du groupe Avanti, autant vidéo, spectacle et tout ça, notamment producteur des émissions de télé à succès telles que Un gars, fille et Tout le monde en parle. Ce qui a donné droit d'ailleurs au Journal de Montréal et de Québec de laisser pendant 48 heures planer le doute que Guillaume Lepage était peut-être lui-même un pédophile en publiant sur les réseaux sociaux une photo de Guillaume pour parler de Luke Wiseman parce qu'il fallait cliquer sur l'article pour savoir que c'était une image utilisée parce que Luke Wiseman était le producteur de Guillaume Lepage. Mais que de la manière c'était écrit, c'était que probablement Guillaume Lepage l'avait fait et ça a repris sa sortie à Tout le monde en parle pour qu'ils disent que c'était dégueulasse. Aura fallu que les gens se plaignent massivement sur les réseaux sociaux du Journal de Montréal et de Québec pour dire « vous êtes dégueulasse de faire ça » pour que finalement... ils enlèvent la publication. Parce que, souvenez-vous, la nouvelle est sortie vendredi dernier. Samedi, c'est encore là. Dimanche, pendant Tout le monde en parle, c'est encore là. Et je pense que ça s'est retiré même le lundi matin. Fait que plus de 48 heures où on pouvait lire un texte du style « Après Gilbert Rozon et Éric Salvaille, un autre poids lourd des médias québécois tombe ». Mais dans les faits, Luke Wiseman n'est pas connu du grand public, sauf si les gens lisent attentivement les génériques de fin des émissions. Parce qu'un producteur comme Luke Wiseman n'est pas sur les plateaux de tournage, n'a pas à dire ce que Guilla doit dire. Je pense que même il est plus relation d'affaires de « c'est lui qui met l'argent ». Je m'avance peut-être, mais... où c'est sa boîte à lui qui produit l'émission, plus que il est sur le plateau de Tout le monde en parle, assis en arrière, et il dit « Non, ça, Guilla, tu dis pas ça. » C'est pas ce genre de producteur-là. Même la personne qui dit « Non, dis pas ça », c'est plus le réalisateur que le producteur. Fait que on s'est servi du fait que Guilla Lepage était très connu, beaucoup plus que Luke Wiseman, pour faire la promotion de ces articles-là. Et jusqu'à preuve du contraire, on s'est pas excusé du côté du Journal de Montréal et Québec. Je me semble que j'ai pas vu passer vraiment d'excuses de « nous avons fait une erreur dans notre choix de photo qui pouvait laisser croire que... » particulier. Enfin bref, il y a du développement ce matin dans cette histoire-là. Le producteur qui a été arrêté vendredi dernier par des enquêteurs du service de police de la ville de Montréal ont accusé d'agression sexuelle, d'attouchement et de voies de fait à l'endroit d'une personne de moins de 16 ans, ainsi que de production et de possession de pornographie juvénile. Les faits se seraient déroulés entre novembre 2018 et avril 2021. L'identité de la plaignante est protégée en vertu de la loi comme elle est mineure. Plusieurs sources, par contre, proches du dossier, ont confirmé à la presse que la plaignante s'était confiée récemment à des personnes de son entourage sur ce que lui aurait fait subir le producteur associé à grand succès de télévision. Bon, voilà. Un adulte en qui l'enfant avait confiance a fait le lien avec les enquêteurs et procureurs spécialisés en la matière au sein du SPVM et du DPCP, du directeur des poursuites criminelles et pénales. L'enquête a été déclenchée. Des mesures ont été prises pour que la plaignante ne puisse plus avoir de contact avec le suspect. Par contre, on cherche le matériel pornographique en question. La plaignante a été invitée à se confier aux enquêteurs dans le cadre d'une entrevue non suggestive, filmée pendant plusieurs heures. C'est le cœur de la preuve amassée contre le producteur, selon les sources de la presse toujours, qui se sont exprimées sous le sceau de la confidentialité, car elles n'ont pas l'autorisation de commenter le dossier. En avril, les policiers ont mené des perquisitions au domicile de Luke Wiseman, selon les informations. L'analyse du matériel saisi se poursuit en ce moment même, mais à ce jour, aucun matériel assimilable à de la pornographie juvénile n'aurait été saisi jusqu'à maintenant. puisque la plaignante leur semble crédible et qu'elle leur a raconté précisément comment le producteur aurait pris des images d'elle dans un contexte d'agression sexuelle, les procureurs ont décidé de porter quand même des accusations à cet effet basées sur sa parole. Donc, les accusations qui ont été portées ne sont pas parce qu'on avait du matériel tangible et voici, monsieur le juge, des vidéos du producteur qui l'a fait lui-même, mais bien, selon les dires de la jeune fille, parce qu'elle était précise dans sa description de ce qui s'est passé. Donc, parce qu'elle était capable de d'être crédible dans ce qu'elle disait, peut-être de la manière que le Wiseman aurait fait les choses, ou en tout cas, on pense qu'elle aurait fait les, qu'il aurait fait les choses, que ça pourrait s'être passé vraiment. C'est rare, voire extrêmement rare, selon Maître Roxane Hamelin, une avocate criminelle qui a mené de nombreux procès en matière de crimes sexuels. La côte est raide pour prouver des infractions liées à de la pornographie juvénile seulement sur la base d'un témoignage. Et il y a quand même des éléments essentiels qui doivent être prouvés, qui sont prévus au code criminel. Il va falloir que le contenu soit décrit de façon assez crédible et fiable. Et la barre est encore plus haute quand on parle de production. C'est la politique du « on croit la victime », comme on dit que ça passe ou ça casse, c'est la version de la plaignante. Si elle nous révèle un fait qui milite pour une accusation, on va porter des accusations et ce sera au juge de décider. Ne pas le faire pour avoir un effet pervers, on pourrait alors dire au DPCP « vous portez des accusations d'agression en vous basant sur sa parole, mais quand elle dit qu'il y a eu des images, vous ne la croyez pas ». Questionne toujours Charles Bécoté, criminaliste, qui dit avoir vu un cas similaire où aucun matériel n'avait été saisi, mais des accusations avaient quand même été portées. Donc, ça n'est pas complètement impossible, mais c'est sûr que de dire qu'il y a du matériel pornographique à quelque part, on va vouloir essayer de récupérer le tout, mais pour l'instant, ça ne serait pas chose faite. Donc, à suivre dans ce dossier-là. Bon, depuis, évidemment, ça a été remanié. Dans le cas d'Avanti, ben, Luke Wiseman n'a plus du tout rapport comme étant ancien actionnaire de la compagnie. Avanti précise que les deux nouvelles propriétaires, Patricia Blais et Monique Lamoureux, ont acquis la totalité des actions de la compagnie et de ses filiales. Les deux femmes agiront comme coprésidentes du groupe, précise la compagnie. Avanti a créé une nouvelle entité à partir de son ancienne division scène qui se consacre à la gérance d'artistes à la production de spectacles. Cette entité est présidée par Nadia Dufour. Après l'arrestation et la mise en accusation de M. Wiseman, son avocat a fait savoir que son client se retirait de ses fonctions au sein de l'entreprise dont il était l'unique actionnaire depuis une vingtaine d'années. Donc maintenant, il n'a plus aucun rapport avec Avanti Group. Évidemment, comme on le précisait, Luke Wiseman était propriétaire de la boîte, n'avait pas nécessairement de lien direct avec certaines filières, quoique il avait quand même son mot à dire, certainement, mais il n'était pas impliqué directement dans le processus. Et c'était d'ailleurs dans l'allocution de Guillaume Lepage au début de la dernière, de Tout le monde en parle la semaine dernière, de préciser que le Wiseman n'était pas directement impliqué avec Tout le monde en parle et qu'évidemment... Bon, Dieu, je baille, c'est l'enfer. Je m'excuse beaucoup. Évidemment, Guillaume Lepage n'avait pas plus de commentaires, mais qu'il était extrêmement fâché pour ne pas dire d'autre chose de ce qui s'était passé. Bon, de l'avoir appris dans les médias un peu comme tout le monde. Donc, voilà pour ça. Au retour, on continue à parler de l'actualité de la semaine. Vous écoutez le deuxième service sur les ondes de chez CFAC. Courte pause au retour. Un petit bloc musical et on poursuit cette actualité.
Ici Marie-Joseph Corriveau. J'avoue que je trouve ma sentence bien sévère, mais au moins, grâce à ma cage, j'arrive à capter 3600 secondes d'histoire les mercredis à 18h30 sur les ondes de Cheese 94.3 FM.
Durant quelques heures, les musiciens, les danseurs et les spectateurs ont vibré au même rythme.
Branche-toi sur l'art et la culture d'ici. Écoute local. Écoute Cheese 94.3.
« cinéma, showbiz, les nouvelles internationales et surtout la bonne musique tropicale. Samedi, dimanche, 13h, Radio Futura 94.3 FM, Québec, Canada. Partout au monde, www.cheese.ca. Digan lo que digan, somos la numéro uno.
Les Kinked avec Migration sur les ondes de Chiz et de CFAQ qu'on vient tout juste d'entendre en musique. Non, je vais y aller quand même. En voulant défendre le ministre Jean-François Roberge accusé d'avoir menti une fois de plus, le premier ministre Legault a fait à son tour une déclaration erronée. Les partis d'opposition ont dénoncé du camouflage pour une énième fois après qu'on ait rapporté que Jean-François Roberge a encore une fois menti, a tenté d'influencer le ministère de la Santé pour dire que ses tests étaient bons alors qu'il était pourri. François Legault a répété encore une fois cette semaine, j'ai totalement confiance dans mon ministre de l'Éducation. Alors que Radio-Canada révélait que le ministre a été averti dès la fin de février de la colère de la santé publique qui ne voulait pas qu'on leur attribue la validation du protocole controversé de tests de qualité de l'air dans les écoles. Pourtant, le ministre Roberge a continué à faire ces déclarations-là jusqu'à la fin mai. Donc, il disait, ben oui, la santé a approuvé notre manière de faire les tests, chose qui n'était pas vraie. Dès le 22 février, le ministre Jean-François Roberge demande une modification et une réponse que s'apprête à faire la santé à Radio-Canada. Donc, la santé publique allait être en entrevue avec Radio-Canada, et Jean-François Roberge a contacté celui qui allait faire l'entrevue pour dire qu'on rajoute dans la réponse que le processus des tests semble conforme. Pas qu'ils sont bons, qu'ils semblent conformes. Et cette tentative a provoqué la colère du conseiller médical de la santé publique, Richard Massé, qui s'est senti instrumentalisé là-dessus. Là, c'est assez. Je ne suis pas d'accord qu'on nous mette les mots dans la bouche et je ne veux plus en entendre parler. Je ne suis pas d'accord pour écrire que le processus semble conforme, entre guillemets, car ce n'est pas notre mandat et ce n'est pas ce qui a été fait par l'équipe et ou l'INSPQ. On réalise que la santé publique n'a pas uniquement ressenti de l'inconfort en raison de ses fausses déclarations. Elle était carrément fâchée que Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation, tente d'influencer la santé publique pour qu'il aille bonne figure, on va dire ça comme ça. Le directeur national de la santé publique, Horacio Arruda, a déjà dit qu'une proportion des commentaires avait été induite, mais pas tout. François Legault, il n'a pas fait valider sa méthode, mais toutes les recommandations de la santé publique ont été intégrées dans notre approche. Voilà ce qui n'est pas exact. François Legault qui dit « Il n'a pas fait valider sa méthode, mais toutes les recommandations de la santé publique ont été intégrées dans notre approche. » Donc, François Legault, ça c'est drôle ça. Oh, j'ai viens d'allumer. François Legault dit que tout ce que Horacio lui a dit, il l'avait fait. Ce qui n'est pas vrai. Ce qui est complètement faux. Lors de l'étude des crédits du ministre de la Santé et des Services sociaux à l'Assemblée nationale, Horacio Arruda a révélé que lui et son conseiller Richard Massé ont demandé au ministère de l'Éducation de cesser de lui attribuer l'aval que Roberge s'était attribué que la santé était de son bord. Et dans un courriel, Richard Massé a écrit à Horacio Arruda, nous avons fait plusieurs commentaires et nous n'avons eu aucun retour par la suite. L'INSPQ, l'Institut national de santé publique, a même déclaré publiquement avoir exprimé des réserves importantes sur la validité des mesures, même si à chaque fois que Jean-François Roberge se présentait en point de presse, il disait « ben oui, la santé publique est avec nous autres, ils ont dit oui, nanana ». Quand Horacio Arruda, Richard Massé et l'INSPQ au grand complet, les trois, donc la santé publique et l'INSPQ, disent non. Jean-François Roberge continuait à dire qu'il a bien fait. Jean-François Roberge a menti et François Legault a défendu son mensonge, a déclaré Gabriel Nadeau-Dubois, qui accuse le ministre d'avoir voulu couvrir ses erreurs. Si j'étais François Legault, je serais gêné d'avoir engagé ma propre crédibilité pour défendre un ministre qui, lui, a perdu toute crédibilité. Dominique Anglade, on a vu le premier ministre agir beaucoup plus vite avec d'autres ministres sur des enjeux qui n'étaient pas aussi signifiants. Rappelons-nous de Marie-Chantal Chassé qui s'est faite tasser parce qu'elle était bête. Rappelons-nous de Daniel Mécan qui n'avait pas une assez bonne poigne et qui a été remplacé par un monsieur. Donc, toutes les ministres femmes de François Legault s'étaient fait tasser dans le temps de le dire, mais Jean-François Roberge continue de s'accrocher à son siège et en plus, François Legault continue de dire que Jean-François Roberge est l'homme de la situation. Dans la même lignée, Simon-Jolin Barrette, qui dépassait les bornes l'année dernière, qui crie après Marois Risky, qui fesse sous son bureau quand ça fait pas son affaire, à la limite, François Legault trouve ça cute. Puis Jean-François Roberge est encore en poste. Dans l'histoire, il y a des ministres qui sont tombés pour beaucoup moins que ça. Mais on dirait que parce que Jean-François Roberge est une tête d'affiche, François Legault ne veut pas prendre le risque de le tasser. Pour quelle raison? C'est mystérieux. Même le député dans le Bas-Saint-Laurent qui est allé manger au restaurant, se lever, pas de masque, qui a été réintégré d'ailleurs, avait perdu son poste de député au sein de la coalition. Mais Jean-François Roberge, qui invente des tests qui sont pourris, qui mesurent rien, qui sont approuvés par personne, reste en place dans des écoles de plus en plus en décrépitude. Parce que quand il est entré ministre de l'Éducation, les écoles étaient endommagées ou à réparer ou scrap ou moisies. Dans le milieu scolaire, il y avait 48 % des écoles qui étaient problématiques. Et maintenant, depuis qu'il est ministre, il disait qu'elle allait remonter ça, mais ça a baissé, c'est rendu 44 %. Fait qu'il y a des écoles qui se sont aggravées, puis il y en a qui se sont rajoutées dans le lot des écoles qui sont problématiques. Mais on a 10 milliards pour un tunnel qui sert à rien. Je le rappelle. Québec solidaire et le Parti québécois demandent une commission parlementaire pour entendre les acteurs clés de cette affaire. On est face à une autre preuve d'instrumentalisation de la santé publique dénoncée par, ça c'est Véronique Yvon du Parti québécois. Tout ça pour tenter de sauver, encore une fois, le soldat Roberge. Et il faut sauver le soldat Roberge. C'est une belle image de Véronique Yvon pour prendre un adage populaire. Interrogé évidemment à plusieurs reprises à l'Assemblée nationale, Jean-François Roberge a réitéré que cette affaire est un malentendu, un pauvre malentendu entre son ministère et la santé publique. Il a appelé les partis d'opposition à passer à autre chose et à regarder en avant. Bon, là c'est fait. Convainc même qu'on s'étendrait là-dessus. Pourquoi toujours revenir là-dessus, évidemment, hein? Passons à un autre appel, n'est-ce pas, M. Roberge? Le ministre a par ailleurs confirmé qu'il s'apprêtait à lancer un appel d'offres pour doter les 48 000 classes du Québec d'un lecteur de CO2 informatisé afin de surveiller la qualité de l'air ainsi que de limiter les risques de transmission de la COVID-19. Une information dévoilée par le Journal de Québec. Et évidemment, comme toute logique, c'est un an trop tard. Comme le dit Dominique Anglade. À l'époque, Jean-François Roberge avait ridiculisé même cette proposition que Gabriel Nadeau avait faite, entre autres. Et il faut ajouter dans les commandes de capture pour les classes celle d'un détecteur de mensonges, a ironisé le chef parlementaire Pascal Bérubé. Donc, rien ne va plus, encore une fois, pour le ministre Roberge, pour une 20e semaine de suite et que ça ne rien comprendre qu'il soit encore là. Sérieusement, ça ne rien comprendre qu'il soit encore là. On va l'entendre pour Pierre maintenant en musique. Courte pause. Au retour, je ramène cette chronique que j'aime beaucoup année après année sur les prénoms loufoques. Je les avais oubliés au mois d'avril, mais on a sorti le palmarès des prénoms loufoques de l'année 2020, des graphies loufoques surtout. Et cette année, on a des nouvelles entrées. On regarde ça tout de suite après pour Pierre. En musique sur les ondes de chez SFAC, contenu plus ludique tout de suite après.
Quelle heure est-il? Elle revient bientôt printemps. sur son passage, elle a tout cassé.
Sur des brasiers ardents,
son prisme à facettes dans lequel elle tourne, elle s'étourdit.
Se voit en kaléidoscope comme si elle avait plein d'amis,
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 comme si elle avait plein d'amis.
Le cœur monarque.
Pour la conclusion du deuxième service de cette semaine, le palmarès des prénoms est sorti. Les cinq prénoms les plus populaires chez les garçons et les filles, ainsi que les prénoms les plus inusités sont de retour. Encore cette année, Olivia et... Ah non, c'est Liam. Bon, on a un nouveau prénom populaire chez les garçons. C'est Liam, puisque William est maintenant numéro 2. Olivia est de retour à la première position, mais c'est très serré entre les Alice et les Emma avec 491 égalités et Charlie à 488. Donc, il y a presque une triple égalité en deuxième position, à deux bébés près, à deux bébés Charlie près. Et la tendance est quand même à la baisse pour ceux qu'on avait dans les dernières années, puisque Léa n'est même plus dans le top 5, et Logan, qui était dans le top 5 depuis quelques années, n'est plus non plus dans les 5 prénoms les plus populaires. Donc, pour les bébés, seront à l'école dans les années 2030. C'est assez spécial à dire. Dans les années 2030, les bébés, les enfants dans les classes se nommeront Olivia, Alice, Emma, Charlie, Charlotte ou, du côté garçon, Liam, William, Noah, Thomas et Léo. Pour l'année 2020, du moins, puisque l'année dernière, comme je le disais, Léa était en sixième position et Logan en sixième. Donc, s'ils étaient par le passé dans les plus près dans le top 5, ils sont maintenant tombés du côté du top 10. Mais ce qu'on aime beaucoup dans les palmarès de prénoms, c'est les orthographes spéciales, donc les pauvres enfants qui vont être pognés à expliquer comment s'écrivent leur prénom aux gens parce que leurs parents ont décidé de faire une petite folie et de mettre des lettres inutiles dans les prénoms ou de rajouter une graphie spéciale comme par exemple Cédric, IQE, pas d'accent sur le E. Madison, M-A-D-Y, trait d'union, S-U-N, hommage au soleil. Max, M-A-X-X, pour une fille. Naomi, H-O-M-Y, Rebecca, 2-K-A. Il y avait Lucas, mais il y a Luca, L-O-O-K-A-S, mais il y a Lugan, par exemple, L-O-U-G-A-N-N. Emmerich, M, trait d'union, Rick, R-I-C-K. Au moins, c'est ça. Au moins, il y a pas Erika, ça aurait pu. Et c'est ça qui est drôle, c'est que malgré qu'il y ait ces palmarès-là à chaque année, il y a des trucs qui reviennent. C'est ça qui est fascinant. Will, Liam, W-I-L-L, espace, L-I-A-M, Zach, avec deux K, Axel, A-K-C-E-L, Anna, Belle, trait d'union, B-E-L-L-E. Comme il n'y a plus de genre, du côté des filles, on a Mathis, Nathan, Rémi, Rocky et William. Et du côté des garçons, on a Lisandre, Catherine, Louison, Isa et Kimberly. Pour les garçons. En hommage à des endroits qui existent, pour les filles, Brooklyn avec deux N, Fiji, Indiana, Olympe, Phoenix, Sahara, Salem, Tennessee, Toulouse et Vienna. Du côté garçon, on a Égypte. Lévis, mais pas d'accent. London, Memphis, New York, Soho, Sutton. Sutton. Sydney, Valmont, Wellington. Jordan River et Jericho. Ou Jericho, peu importe. Le showbiz inspire toujours Axel Rose. Ça revient année après année, mais Axel 2LE, trait d'union rose pour une jeune fille. Presley, Rihanna avec un seul N, R-I-H-A-N-A, Shakira, Stormy, je suis toujours mal à l'aise quand c'est Stormy du côté des filles, du côté des garçons, Aladdin, Anakin, Beckham, Darwin, Jagger, Jagger revient souvent année après année, Louis Riel, rien de moins, Manolo, probablement Ramdam. Pimpin, René Charles, Victor Hugo, Zola et Usher. Usher, je suis pas sûr. Dans les qualités. Precious, Miracle, Holy Glory, du côté féminin. Du côté garçon, Brave Hunter, Claude Winner, Bonheur, Don Divin, Glorieux, Le Bonheur. Comme prénom, Le Jean ou Legend, ouais, plus Legend. Neveu. Pourquoi neveu? Mon neveu, neveu. C'est bien. Précieux, Preston Beau. Et succès. Preston Beau. Quelle pression. Quand je le disais que les prénoms sont s'écrivent de plusieurs manières, on se souviendra de Louis-José Hood avec son fameux numéro des Carolanes. Caroline avec un C, un N, Caroline avec un C, deux N, un E, etc., etc. Il avait fait de la nomenclature des Carolanes. Cette année, c'est les Billy pour les filles et les Mavericks. Pour les garçons, peut-être sont-ils inspirés du prochain Top Gun, Top Gun Maverick, qui est supposé sortir cette année, finalement. Du côté des Billy, c'est qu'on fait des combinaisons. Donc, on a Billy Ann, Billy Claire, Billy Eve, Billy Jane, Billy Lou E, Billy Love, Billy May et Billy Rose. Donc, accordez votre Billy comme vous le voulez. Et du côté de Maverick, ben, c'est l'orthographe. Parce que pourquoi écrire Maverick, M-A-V-E-R-I-C, comme du monde, ou M-A-V-E-R-I-C-K, quand on peut faire toute la nomenclature C-C-K-I-K, Y-C-K, Y-K, C-C-K, C-K-S, donc Mavericks, Maverick-K, Maverick-Y-C-K, et Maverick-Y-K. Maverick, M-A-Y-V-R-I-C-K. Je vous le dis, donc c'est dans 20 ans dans ce cas-ci. Donc en 2040, si vous prenez des réservations pour Maverick, demandez de l'appeler. Ça va être important. Des prénoms à deux lettres, comme aux États-Unis, parce que pourquoi pas. TJ, CJ, Joe et Ed. On a quatre bébés. TJ, CJ, Joe et Ed. On espère qu'ils vont se rencontrer dans la vie. Presque la bonne chose. C'est une belle catégorie. Puisqu'on a Rachael, on a Ronick. Chez les garçons, on a Garbiel. Là, c'est à se demander si c'est juste une erreur de frappe, parce que Garbiel, c'est réellement à une lettre d'être la bonne chose. Louic. Luc Dovic, Pichartson, Rédéric, Kevin,
catégorie avec des Y. Youyou et Yaya. Youyou pour une fille, Yaya pour un garçon. Et les parents créatifs, on va dire ça comme ça, pour des combinaisons de prénoms, ou du moins, on ne s'est pas entendu sur le prénom, donc pourquoi ne pas donner les deux? Du côté féminin, on a Agathe Eugénie, Cadence Rose, Cali Rose Marjolaine en un prénom, Avanael, trait d'union Lou, Lovely, Mariana Plague, Marie Soda, Orliflore, Phoenix Monique et Princesse trait d'union Denise. Princesse Denise. Du côté garçon, Ange Gabriel, Ange trait d'union Gabriel, Odilon Dave, Paul Rouge, Paul trait d'union Rouge, Maurice Logan, Marc Astre, Liam Kitt, Primo Sébastien, Mix Caulfield, Flesh Gino Junior, Lucky Land, Lord Nico, Liam Boreal, Jean-Chris, Jem Valentine, Garo Théo, et en quatre prénoms, Brew Jack Harold Léo. Yes, sir. Brew Jack Harold Léo. Je ne pense pas qu'on peut faire mieux que Brew Jack Harold Léo. J'ose croire que Léo est le prénom usuel et que les trois autres sont comme les prénoms ajoutés, mais sur le baptistère, il y a un Brew Jack Harold Léo quelque part. Ah, puis allons-y avec le Varia. Du côté féminin, Journée, Mélixandre, Micombe, Motley, Pixel, Perselphone, Siri et Soda. Et du côté garçon, Buck, Cashmere, Chris Farrell, Gonzo, Jacuzzi, oh non, Jacuzzi, J-A-C-K-U-S-I, Laser, La Flèche, pas d'accent, Lion, Lucifer, Louliam, Maximus et Mazda. Mazda Tremblay, il y a un nom de garage, ce petit garçon-là, c'est génial. Il y a un nom de concessionnaire, il s'appelle Mazda. Fait que c'est mon deuxième préféré, je pense mon préféré cette année, vraiment, Brew Jack Harold Léo. Et c'est là-dessus que se termine le deuxième service de cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine. Salutations à Brew Jack Harold Léo, à Mazda et à Chris Farrell. C'est génial. C'est génial. À la semaine prochaine. Salut.
Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
Saviez-vous que rap, ça veut dire rythme et poésie?
Le Beatnik Show.
Le show de rap avec le meilleur flow.
À Chiz 94.3 le lundi à 20h30.
Lundi 20h30.
Avec votre animateur, Nicolas Leclerc. Pour du bon hip-hop québécois, t'as pas le choix.
T'as pas le choix.
C'est le Beatnik Show.
Merci, c'est le Beatnik Show.
Chérie, j'arrive. C'est toi qui arrives en ville et qui découvre à quel point il y a du beau et du bon talent artistique à Québec.
En semaine, dès 16h, à Chiz 94.3.
Bordel en réveillant Saint-Charles. Boisé sur le slalom, musique zag.
Si ça nous tue, pourquoi on recommence?
Écoute locale avec Chiz 94.3.